On voyait que les Américains devaient marcher sur leur fierté et leurs principes.
Une liberté de penser.
Mais il le fait d'une façon particulièrement grossière et maladroite.
Une force internationale.
Et même, on va plus loin.
Luc, la liberté.
Alors, Luc, c'est important ce qui se passe aux États-Unis. La Cour suprême débute enfin ses audiences sur l'immunité présidentielle aux criminels.
Écoute, le nombre de causes importantes dans la dernière année et dans les mois qui viennent, qui vont se retrouver devant la Cour suprême, si on parle de polarisation, si on parle d'affrontement, la Cour suprême joue gros ces jours-ci. Ces décisions-là vont avoir un impact, bien entendu, si on parle du procès qui débute aujourd'hui, là, ça va avoir un impact sur la présidence, mais en même temps sur la campagne électorale. Donc, Donald Trump, ses avocats ont dit, puis même en répondant à des questions assez extrêmes, est-ce que le président jouit d'une immunité totale aux criminels? Nous pensons que oui. Il y a peu de gens qui s'étaient risqués à défendre cette thèse-là, et là, non seulement on la défend, on demande à la Cour suprême de trancher, et elle a accepté. Je rappelle, pour le bénéfice des téléspectateurs, téléspectatrices, des gens qui nous écoutent dans l'ensemble, quand c'est allé dans une cour, dans un tribunal en guillemets inférieur, avant la Cour suprême, il y a une juge, c'est un panel de trois juges, donc il y a une juge qui demande aux avocats de Trump, si M. Trump est au pouvoir et qu'il décide d'assassiner un adversaire politique en recourant, par exemple, à notre élite militaire, pourrait-il le faire? Et l'avocat a dit, ben écoutez, il y a un contexte, mais oui. Donc, c'est le genre, quand on dit on aborde la question de l'immunité présidentielle, faut penser à tout ce que ça peut couvrir. Et j'ai hâte de voir, j'avoue sincèrement, pour suivre ces dossiers-là depuis très, très longtemps, ça fait 25-30 ans que je commente, analyse ou enseigne tout ça, je serais très étonné que le jugement de la Cour suprême, ce serait l'immunité est totale. Mais on a eu des surprises. Je ne pensais pas non plus que la Cour suprême balayerait Roe versus Wade, hein, qu'on annulerait le jugement qui décriminalisait l'avortement. Je pensais qu'on se contenterait de rester, qui déjà pour beaucoup était trop, pour d'autres pas suffisant. Mais on nous a étonnés. On est allé de l'avant avec quelque chose qu'on n'entrevoyait pas il y a quelques années à peine. Donc, cette cause-là, je le répète, elle est majeure, puis elle est majeure pour Trump. M. Trump est actuellement dans un procès criminel, mais cette fois-là, c'est pour quelque chose qu'il a fait avant d'être élu. Donc, à New York, une des raisons pour lesquelles on est allé de l'avant, c'est qu'en tentant de se faire élire, on allègue qu'il a comploté pour contourner finalement la loi électorale et effectuer un paiement qui finalement contrevenait à la réglementation et aux lois. Donc, cette fois-là, je répète ce qui se passe à New York, parce que M. Trump, en fait, ses avocats sont dans deux tribunaux en même temps au moment où on se parle. À New York, c'est comme candidat, mais quand on parle du 6 janvier 2021, quand on parle de l'élection en Floride et d'un certain nombre d'autres causes, dans le cas de M. Trump, cette fois-là, il était bel et bien président. Donc, est-ce que pour les autres procès à venir, ils auront lieu? Si les juges disent l'immunité est totale, tout vient de tomber. Donc, sinon, ce qui est intéressant à observer, c'est quelles vont être les balises, quelles sont les technicalités de la Constitution et les balises qu'on va utiliser pour rendre un jugement.
C'est ce qu'on peut appeler la doctrine Nixon. Richard Nixon, lorsqu'il s'est fait prendre la main dans le sac avec l'histoire du Watergate, dit « lorsque le président fait quelque chose, ça devient comme par magie légal ». C'est un peu ça qu'on dit, là.
Et tu vois, c'est à peu près historiquement, il y a quelques cas à limite, mais dans le cas de Nixon, c'était flagrant. Et ce qu'on a établi à l'époque et retesté depuis, mais qu'on a confirmé, c'est qu'au plan civil, le président jouit d'une immunité totale. Et la raison derrière ça, imaginons par exemple que M. Nixon n'ait pas payé une contravention, en slang, un ticket de parking, on va pas embêter le président dans l'exercice de ses fonctions pour des broutilles. Mais au criminel, c'est autre chose. Dans le cas qu'on a pris, c'était un cas de caricature et c'était voulu de la part de la juge qui posait la question. Mais peut-il littéralement commander un assassinat politique contre un citoyen américain et qui plus est un adversaire politique? Donc, au civil, rappelons-le, ce que t'appelles la doctrine Nixon, c'est établi. C'est-à-dire qu'il y a cette immunité au civil. S'il y en a une au criminel, quelles en sont les balises? Est-ce qu'on peut tout se permettre si on est président des États-Unis? c'est intéressant pour quelqu'un comme moi, Richard, parce que tu vois, je suis en train d'expliquer en classe le moment où on met en place la démocratie dans le monde occidental et le moment où on procède à la séparation des pouvoirs. Donc, on quittait des monarchies pour mettre en place des républiques ou des monarchies parlementaires. Et une des choses les plus importantes, c'est la séparation des pouvoirs et d'éviter de reproduire d'éventuels, ce qu'on appelait à l'époque, tyrans ou monarques absolus. Un président américain qui serait immunisé complètement aux civils et aux criminels, il y a quelque part cette notion de séparation des pouvoirs qui entre en cause ou qu'on doit prendre en considération. Ça lui donne des moyens extrêmes. On pense que personne n'ira là, mais ça se pose comme question. Donc, je trouve ça, sur le fond, je trouve ça fascinant. En même temps, dans notre couverture de l'élection 2024, ça risque d'influencer beaucoup de choses parce qu'il y a des procès qui vont aller de l'avant ou non, ou qui risquent d'être affectés, même s'ils vont de l'avant. Tout ça, on va le vivre en direct, toi et moi.
Écoute, si je faisais partie des gens qui ont pris d'assaut le Capitole, OK? Moi, je dirais, l'histoire est écrite par les gagnants parce que Washington a pris les armes contre un gouvernement tyrannique et il est un héros. Il est salué comme un héros par tout le monde. Alors, moi, je dirais, voici ce que j'ai fait. J'ai pris les armes contre un gouvernement que j'ai jugé, contre une institution que j'ai jugée tyrannique. Pourquoi ça marche pour Washington et pas pour moi? Ça pose une question philosophique intéressante, ça.
Ben, question philosophique, puis souvent argument qu'il faut replacer dans son contexte historique. Par exemple, une autre citation qu'on utilise souvent, et c'est un des présidents les plus influents et un des penseurs les plus influents aux États-Unis au moment de la naissance du pays, c'est Thomas Jefferson. Je sais pas si tu te souviens de ça, mais régulièrement, on cite hors contexte une phrase de Thomas Jefferson qui dit, grosso modo, le sang de l'arbre de la liberté doit être arrosé du sang des patriotes occasionnellement. Alors, okay. Eux disent, on est rendu à ce moment-là. Faut savoir qu'on tire ça d'un ouvrage qui est beaucoup plus vaste et que Jefferson n'imagine pas de déstabiliser la République. Là où on récupère Thomas Jefferson habilement, c'est quand on dit on trouve que le gouvernement central prend trop de place dans nos vies, que c'est le gouvernement local ou celui de notre État qui est le mieux placé pour comprendre finalement nos besoins, là où on devrait s'investir et prendre des décisions. Donc, quand on cite Jefferson ou quand on parle d'indépendance américaine, on oublie à chaque fois tout le contexte historique. C'est bien plus complexe que la petite phrase catchy, en anglais, pour les citer. Donc, c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on sait.
Concernant l'immunité de Donald Trump, ça, c'est une autre question aussi d'éthique intéressante. Parce que effectivement, sur certains aspects, le président peut faire des choses qu'un simple citoyen ne peut pas faire. Et corrige-moi si je suis dans l'erreur, Luc, mais je crois que Barack Obama a fait assassiner à l'étranger un citoyen américain qui était considéré comme un terroriste. C'est un président qui fait assassiner un citoyen américain, là. Quand même, tu sais, comme quoi le président peut aller très loin, là.
Et ce que tu soulignes, c'est particulièrement intéressant. C'est à la fois tordu et très intéressant. Au plan légal, puis au plan de la définition des pouvoirs. Et c'est là parfois où on comprend, d'abord, c'est pas tout le monde qui a le temps de lire ces documents-là avec précision, et même ceux qui les lisent souvent savent pas toujours comment les interpréter exactement. Dans ce temps-là, ce qu'on fait, c'est qu'on va jouer sur les mots. Si on devient, rappelle-toi, un combattant étranger, si on a joint les rangs de l'ennemi, si on est considéré comme un traître, on va jouer sur cette notion éventuellement pour justifier une décision du gouvernement. Mais quand tu réfères à Barack Obama, par exemple, une chose qu'on peut reprocher ou à tout le moins souligner, c'est que Barack Obama, parce que c'était le cas dans ce que tu viens d'aborder comme sujet, Barack Obama est le président qui a le plus utilisé des drones pour abattre des gens à distance. Il n'y a rien qui était prévu là-dedans au départ. Ce fameux document qu'on dépoussière pas assez souvent à mon goût, mais ce fameux document fondateur, la Constitution, on n'envisageait pas ces moyens-là. Quand on dit que le président est le commandant en chef de l'armée, qu'on va lui donner ce pouvoir-là, Est-ce que ça allait jusqu'à avoir des cibles qu'on est capable d'atteindre par drone? Ça déshumanise du côté américain quelque part le geste. C'est plus un soldat, c'est plus un militaire qui le fait. Sinon, c'est quelqu'un dont on a l'impression qu'il joue avec une console de jeu et qui va diriger le drone en question. Mais le résultat est le même.
Est-ce que ces gens-là n'avaient pas le droit à un procès juste et équitable aussi avec un avocat, etc.? On a décidé, là, non, on va skipper, excuse-moi, là, on va sauter par-dessus l'étape du procès et on va aller directement à l'exécution parce que moi, en tant que président, j'ai décidé qu'il méritait la mort. Des questions intéressantes. Tu te souviens, toi et moi, on était des fous de la série West Wing. À un moment donné, il y a un épisode qui était sur deux épisodes, en fait, là, qui est extraordinaire. Martin Sheen, qui était le président des États-Unis, se posait la question, est-ce qu'on abat ce citoyen américain-là qui, selon moi, constitue une menace pour la sécurité de l'État? Et il savait pas, il était pogné dans toutes sortes de questionnements éthiques très intéressants, là.
Et c'est que chaque fois qu'on, dans le cas de Martin Sheen, dans la série, ce qui m'agaçait, c'est qu'il était toujours parfait, bien sûr. Oui, oui, oui. Il finissait toujours même dans les cas de... Mais j'ai adoré la série. C'est le personnage qui était un peu trop parfait. Il y avait jamais, justement, le dilemme moral, il tombait toujours du bon côté, finalement, oui, quand il y avait une décision à prendre. Ce qui nous arrive rarement dans l'ensemble de la population. Mais le débat était réel et c'est qu'on crée un précédent. À partir du moment où un président va l'autoriser une fois, comment peut-on reprocher au suivant de le faire? Et c'est là où la décision de la Cour suprême, elle est majeure. C'est que ce qui se passe à compter de ce matin, on l'oublie souvent parce que là, on met des noms sur les acteurs. Ils s'appellent Biden ou ils s'appellent Trump ou on vient de parler d'Obama ou de Bush. On les a à l'esprit. Qui vont être les prochains et comment vont-ils fonctionner au regard de ce que la Cour suprême décide? Et il y a un cas particulier en passant pour M. Trump. Il y a trois de ces juges-là qui ont été nommés par Donald Trump. Ce n'est jamais arrivé un cas comme ça. D'abord, on ne s'est pas prononcé sur l'immunité criminelle, mais il y a quand même trois juges. Ce n'est pas des républicains, mais il y a quand même trois juges qui doivent leur nomination à la personne dont il est question, au cas qui leur est présenté. Et ce n'est pas une critique de l'impartialité des juges, c'est ça laisse place à beaucoup d'interprétations. Ben oui. Et quand on regarde les médias américains, c'est ce qu'on observe. Si on est progressiste ou qu'on est conservateur, regardez la couverture médiatique, allez lire ou écouter des segments d'émissions, puis vous allez voir que la nature humaine reprend le dessus assez rapidement. On les voit moins comme des juges dans certains cas que comme des activistes politiques, et on est pour ou contre.
En tout cas, c'est un principe intéressant. Bien sûr, là, c'est Donald Trump qui se retrouve au centre de cette histoire-là. On l'aime pas beaucoup, Donald Trump, tout ça, mais sauf que l'idée, c'est est-ce que le principe est bon? Voilà. Est-ce qu'effectivement, un président, quel qu'il soit, même si c'est un président qu'on n'aime pas, même si c'est un président qu'on trouve un peu bizarre, est-ce qu'un président a le droit de faire certaines choses que un simple citoyen ne peut pas faire? Et jusqu'où on trace la limite? Ça va être super intéressant. Demain, Luc, je veux revenir avec toi, oui. On n'a pas le temps, là, puis je veux revenir avec toi sur les manifestations, sur les campus, oui. Entre autres le campus Columbia. Columbia, là, ça brasse énormément. Merci beaucoup, Luc Laliberté.
Merci à toi. Bonne journée, Richard.
Salut.